Ah, c'est tellement bon d'être dans la famille de Dieu. C'est tellement riche, c'est tellement rempli d'amour, rempli de foi, rempli d'espérance. Je suis émerveillée par tout ce que nous avons vécu avec vous pendant cette semaine. Et vous savez, vous nous êtes devenus vraiment très chers. Et ce matin, j'avais envie de partager avec vous quelques paroles que le Seigneur m'a mises sur le cœur, parce que je pense que nous vivons un temps particulier. Certainement ici, dans cette église, mais aussi partout sur la planète. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer, que le Saint-Esprit est en train de faire, sur toute la planète. Je trouve tellement passionnant de vivre le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est en train de changer. Ça frémit de partout. Le Saint-Esprit est en train de rassembler son Église. Alors c'est vrai qu'en même temps, il y a le chaos, il y a les ténèbres, il y a des choses pas belle qui avance. Mais je crois que le Seigneur vraiment veut nous encourager et nous dire, mais ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas distraire. On a vu cette semaine qu'un tout petit peu de lumière chasse les ténèbres. Alors, il y a beaucoup de lumière ici, vraiment. Je vois beaucoup de lumière parmi vous. Et il y a la présence de Dieu, et c'est l'essentiel. Et je crois vraiment que c'est le temps de l'Europe. On aime bien, avec Thierry, proclamer à 17h le soir, avec des milliers d'autres, l'Europe sera sauvée. Et il y a quelque chose qui a commencé, et c'est magnifique. On entend des témoignages, on entend vraiment des choses qui sont en train de se passer. C'est le temps pour l'Europe, c'est le temps pour la France. Moi, je crois que la France a un héritage spirituel extraordinaire qu'elle s'est fait voler à un certain moment et c'est en train d'être restitué parce que l'ennemi n'a pas le dernier mot. Et c'est aussi le temps pour Israël. Moi, je reviens de 3 semaines passées en Israël le mois dernier et ce même frémissement, il était là et je dirais même il était encore plus intense. J'avais l'impression que vraiment le Messie du peuple juif était à la porte. Je crois qu'on est en train de vivre un temps d'accélération. Les choses, vous savez, c'est comme la veuve là, qui demande justice et qui frappe à la porte du juge et qui insiste, etc. On a l'impression que c'est long, c'est long, c'est long. Et puis tout à coup, Dieu agit promptement. Et il me semble que le Seigneur va nous surprendre dans des choses qu'on demande depuis longtemps. Il va tout à coup agir avec rapidité. Et il faut vraiment qu'on se prépare, qu'on soit là, qu'on soit aux aguets. J'avais ce passage d'Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vient et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, sur chacun, sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. Qu'on puisse vraiment prendre cette parole, chacun. C'est le temps de se lever. Lève-toi. C'est le temps de se redresser à l'intérieur. C'est le temps de faire confiance au Seigneur, qu'il est là. Il est là, il habite en nous, en chacun d'entre nous. Il est là, au milieu de nous, il habite l'Église. le temps de se lever et de briller. On a vu le visage illuminé de Moïse hein, cette semaine. Le sur toi, sa gloire apparaît. Et le Seigneur est en train d'illuminer encore davantage vos visages pour que vous alliez, que vous alliez, comme on disait, pour le bien de ce monde. Hein, on a chanté, voilà, le temps de se lever, briller de sa bonté, briller de sa paix, parce que quand on est dans la paix, ça effraie l'ennemi. Et briller de sa joie aussi, parce qu'alors là, l'ennemi prend la fuite. Il ne tient pas devant notre paix et devant notre joie. Ce que ça demande, c'est que nous puissions vraiment nous aligner sur le cœur de Dieu. Ça, c'est la chose sur laquelle nous devons veiller. Et veiller les uns sur les autres, pour qu'ensemble, on puisse vraiment rester dans cet alignement. Et moi, j'ai vu encore ce matin à quel point il y a cette volonté au milieu de vous d'être aligné sur le cœur de Dieu et qu'on puisse vraiment ensemble s'encourager, vous encourager les uns les autres à rester alignés. Oui, parce qu'il y a vraiment une plénitude dans cet alignement au cœur de Dieu et il y a une puissance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment un temps pour être ensemble et vivre ensemble. Une autre parole, oui, c'est comme si le Seigneur me disait, mais rappelle-leur qu'ils sont des enfants de Dieu. Bien sûr qu'on le sait, bien sûr, mais je crois qu'on n'a pas fini de se le dire et de se le redire mutuellement. Des enfants de lumière, vous êtes chacun des enfants de lumière. 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race royale. On a vu ça aussi cette semaine, que nous étions des enfants du grand roi et que notre héritage est un héritage d'enfants de roi. Alors n'hésitons pas à aller puiser dans notre héritage. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et c'est vraiment d'une façon royale que nous avons exercé le sacerdoce, là tout à l'heure, dans la louange. Et le Seigneur est vraiment venu honorer cette louange, honorer ces cœurs ouverts. Et il reste là, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, rien que ça, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oui, l'Esprit rassemble son peuple. L'Église, il rassemble son peuple, Israël aussi. Il prépare l'épouse. Moi, j'ai vraiment cette impression que le Saint-Esprit est en train de travailler à préparer une épouse belle, sans tache ni ride. Alors, voilà, il le fait. Je crois que c'est le temps où le Saint-Esprit est en train d'exaucer la prière de Jésus. Vous savez, dans Jean 17, peut-être que vous aurez à cœur de la relire, cette prière, et peut-être de la prier avec Jésus. Peut-être régulièrement. Je lis juste le passage des versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est vraiment un temps pour être ensemble, pour travailler à nos relations, pour en faire une priorité. Bien sûr, la relation avec Dieu est première, mais tout de suite après, la relation les uns avec les autres est essentielle. Et ce n'est pas les uns sans les autres. Ce n'est pas les hommes sans les femmes. Ce n'est pas les adultes sans les enfants. Ce n'est pas les protestants sans les cathos. Et ce n'est pas l'Église sans Israël. Soyez bénis, vraiment. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagnent dans sa paix et dans sa joie.
J'entendais la louange, j'entendais cette exhortation de Monique et je me disais, on est vraiment devant un saut qualitatif. Il y a une marche qu'on est appelé à franchir. Et ce n'est pas simplement améliorer un peu, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de passer à une étape supérieure. Et c'est ça que j'aimerais un peu partager avec vous ce matin, avec un passage biblique. Comment est-ce que Jésus encourage ses disciples à passer à une marche supérieure? Juste avant, puisqu'on est plus nombreux que les soirs, donc j'imagine qu'il y a 2-3 personnes qui sont là puis qui n'étaient pas là les autres soirs, j'aimerais dire que on n'est pas du tout ici avec l'idée de donner des leçons. On est ici avec l'idée d'exercer quelque chose que Dieu nous a donné en complémentarité avec tous les ministères qui sont au milieu de vous. Et pendant qu'on était en train de chanter tout à l'heure, je me disais, mais Seigneur, tu nous as vraiment donné une tâche facile à Monique et à moi. Parce que nous, on passe une semaine au milieu de vous, et puis on s'en va. Et quelque part, on délivre quelque chose que Dieu nous a mis à cœur, et puis on part. Et on laisse l'Église, avec tout ce qu'elle contient, avec tous les ministères, ici sur place. Et ce qui vous fait vivre, ce qui fait vivre ce morceau du corps du Christ depuis tellement d'années, ce n'est pas des orateurs de passage, mais c'est les ministères au milieu de vous. Et il y a un appel à honorer les ministères au milieu de vous. Je pense à vos pasteurs, je pense à leurs conjoints, je pense aux anciens, je pense à ceux qui ont des responsabilités. Et là, il y a quelque chose de fondamental en termes de vivre le renouvellement des relations au milieu du corps du Christ. Donc vraiment, on n'est pas là pour vous dire, voilà, on a tout compris, et puis en Suisse, parce que nous, on ne peut pas dire en Amérique, alors on dit en Suisse. Alors oui, le chocolat est meilleur en Suisse, mais il y a tellement de meilleures choses chez vous. Tellement. Donc c'est un point qui est vraiment important, et puis que je voudrais poser comme ça aussi, en lien par rapport à ce que Monique a dit, s'aligner sur le cœur de Dieu, c'est aussi, Bien sûr, c'est s'aligner moi. Moi, je m'aligne sur le cœur de Dieu, mais je l'ai dit un soir, je ne sais plus si c'est ici ou à Évreux ou ailleurs dans la tournée qu'on est en train de finir, mais on n'est pas appelé à être des chrétiens fusées, les uns à côté des autres, prêts pour le ciel. Moi tout seul. Non, non, on est un corps, on est un peuple. On est liés les uns aux autres. On a une responsabilité collective. On a une vie commune. Qu'ils soient un, comme nous sommes un. On a parlé de la Trinité pendant ces soirées. Parce que c'est un peu facile d'être un chrétien fusé tout seul. Et puis là, on est de nouveau dans l'idée de « Et mon moteur est plus puissant que celui d'à côté, donc j'irai plus vite. » Mais non. C'est une élévation commune. Souffrez avec ceux qui souffrent, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ton succès, c'est mon succès. Ta souffrance, c'est ma souffrance. On est ensemble. Bon, je m'égare de ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un petit passage de l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 22 et suivant. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent de Jésus, le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir !» Jésus se réveilla, menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis Jésus leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » C'est une histoire assez frappante, je trouve. Les disciples sont en danger, ils ont un problème, il y a une tempête, ils font appel à Jésus, ils le réveillent, Jésus agit, Jésus calme la tempête, il répond à la prière, il exauce. Moi, j'ai envie de dire, les disciples ont fait tout juste. C'est bien ce qu'on fait. Quand on a un problème, on se tourne vers Jésus, on lui dit « Seigneur, j'ai un problème ». Le Seigneur répond, il résout le problème, « Alléluia, Amen » et on fait un témoignage dimanche matin. J'avais un problème, j'ai eu la foi, Jésus a répondu à ma prière, Alléluia. Oui, c'est bien ce qu'ils ont fait, les disciples. Et Jésus, pour les récompenser, au lieu de leur dire, formidable, vous avez eu la foi en moi, formidable, vous avez cru en moi, formidable, vous avez fait appel à moi, formidable, vous êtes géniaux, il leur dit, où est votre foi ? Ben, Seigneur, ma foi, elle est en toi. J'ai fait appel à toi. Tu m'as répondu, je suis un homme de foi. Où est ta foi ? Demande Jésus. Où sont dirigés leurs regards ? C'est quoi la foi ? La foi, si on prend la définition de l'Épître aux Hébreux, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous êtes d'accord ? Jésus a dit à ses disciples par ailleurs, il a dit « Je ne fais rien que je ne vois le Père faire. » Je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Or, ce que le Père fait, ben, on ne le voit pas. Donc, la foi, c'est la démonstration de ce que le Père fait, puisque c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous êtes d'accord avec ma logique ? Ce n'est pas trop mathématique, ça va. Vous supportez ? Jésus, il a les regards fixés vers le Père. Et il regarde ce que le Père fait. Et à partir de là, il agit dans le monde. Et par exemple, il y a la tempête, les disciples réveillent, Jésus voit le Père calmer la tempête et il calme la tempête. Ça va ? Et il dit aux disciples, où est votre foi ? J'aimerais nous encourager, comme Monique l'a dit, à aligner notre cœur sur Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ? Jésus est en train de dire à ses disciples, vous avez les yeux fixés sur la tempête, vous me réveillez tout en gardant les yeux sur la tempête, et vous comptez sur moi pour faire ce que le Père fait. D'accord ? Vous croyez en moi. Mais il y a un saut qualitatif. Moi, je crois que Jésus est en train de dire à ses disciples, je vous encourage à apprendre, à regarder vous-même ce que le Père fait et à le faire vous-même, parce que vous êtes mes disciples. Quand il les envoie en mission, il ne leur dit pas, vous allez me prier pour que les gens soient guéris. Il leur dit, guérissez. Est-ce qu'on est devenu des guérisseurs ? Non. Est-ce qu'on a des pouvoirs ? Non. Mais on est appelé à regarder ce que le Père fait et à le faire. C'est la foi. C'est la foi de Jésus en son Père. Il voit l'invisible et il le fait. Quand on se promène partout où on va, je ne sais pas où vous allez aller cet après-midi, pendant que vous marchez, pendant que vous dormez, parce qu'il y en a qui font la sieste, c'est bien, moi je suis un homme de sieste, moi je suis fait pour vivre dans le sud, j'aime la sieste. Là où je suis, ça choque les gens. J'avais une paroissienne super, mais elle venait toujours sonner à ma porte à l'heure de ma sieste. Elle aurait pu attendre 20 minutes quand même. Où que vous soyez cet après-midi, demain, après-demain, au travail, à la maison, demandez-vous, qu'est-ce que tu es en train de faire, Père, pour que je le fasse ? Là autour de moi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Quelle est l'œuvre que tu es en train de faire pour que je la fasse ? Parce que Jésus nous a appris que lui, il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Et s'il nous dit ça, ce n'est pas pour dire « et ça m'est réservé ». C'est pour nous dire « vous êtes mes disciples et vous allez faire des choses plus grandes que moi ». Mais ce n'est pas parce qu'on est plus puissant, plus ceci, plus cela. C'est parce que simplement, il nous encourage à ce saut de garder les yeux sur le ciel et non pas sur les problèmes. Et quand on voit ce que le Père fait, on peut le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de la tempête ? Moi, je crois que ce que Jésus est en train de dire aux disciples, c'est « ce que j'ai fait, moi, à cette tempête, vous auriez pu le faire. » C'est-à-dire, vous auriez pu, vous, vous adresser au vent et le calmer. Si vous aviez vu le Père le faire, vous l'auriez fait. Où est votre foi ? Où est votre capacité à voir l'invisible? Où est votre capacité à garder les yeux sur le ciel? Tout en étant en prise avec le réel, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que Jésus est en train de nous encourager à un saut qualitatif dans la foi. Pour le dire autrement, nous croyons en Jésus-Christ, oui ou non? Oui. Et la foi en Jésus-Christ, c'est la foi qui nous donne le salut. Celui qui croit en moi est sauvé. Mais Jésus nous appelle maintenant non seulement à croire en lui, mais à croire comme lui. C'est-à-dire à voir ce qui est invisible et à le faire dans des toutes petites choses, dans des grandes choses. Allez guérissez. On l'a bien compris pour le baptême. C'est aller guérissez, tatata, baptiser. Baptiser, on le fait, on ne met pas les gens au bord d'une piscine ou d'un lac ou d'un baptistère en disant « Seigneur, baptise-les ». On les prend, puis on les plonge, puis on les ressort. On le fait, nous. Et on ne fait pas ça pour l'ordre qui est juste à côté. Bénissez, dit Jésus. On ne dit pas « Seigneur, je te prie de bénir ». Oui, on dit ça des fois. Mais on peut dire, parce qu'on voit le Père bénir, « Je te bénis ». De la part de Père, du Père au nom du Christ, « Je te bénis ». Ça fait un petit peu clérical. Mais il faut qu'on se libère de ça. Nous sommes un peuple chargé de bénir. Nous sommes un peuple chargé de guérir. Nous sommes un peuple chargé d'annoncer l'Évangile. Faites des disciples. C'est même plus que ça, c'est faites des nations des disciples. Ce n'est pas faire quelques disciples dans les nations, hein. C'est transformer les nations en disciples. C'est à nous de le faire. On n'est pas en train de dire « Seigneur, je te prie que tu transformes la France en disciples ». Oui, on fait ça. Mais le Seigneur, il dit « Regarde-moi, regarde ce que je fais et fais-le. Et tu feras des choses qui transforment petit à petit ce monde en disciples ». C'est passer la porte pour ceux qui étaient là les derniers soirs. Croire en Jésus, c'est atteindre la porte, et puis on est sauvé, et puis je disais, on est coincé dans la porte. Croire comme Jésus, c'est passer la porte, aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, et le ramener sur terre. Et c'est important qu'on apprenne de nos jours à aller chercher les solutions, à aller chercher nos actions dans le royaume, et non pas juste au bord du royaume. En disant « Toc, toc, il y a quelqu'un, Jésus, tu pourrais faire quelque chose pour moi ?» Oui, il va le faire. Pas de problème, Jésus est fidèle. Mais il nous encourage à passer un cap, à grandir. Alors, quel est le rapport avec la culture de l'honneur? Ben, c'est très simple. C'est que le jour où vous vous adressez à un genou malade, puisqu'on a eu des genoux tout à l'heure, en disant « Genou, je te commande de fonctionner au nom de Jésus », eh bien, il faut que les gens autour de vous, ils vous donnent de la sécurité et non pas du jugement. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. On était dans une convention de guérison. Et puis l'orateur nous apprenait justement à parler à la maladie. Oh. Puis je vous rappelle, moi, je n'ai pas mis la robe, hein, mais moi, je suis un gars là, avec la robe noire et les rabats blancs, même si aujourd'hui, j'ai un nœud papillon bleu. Hein, mais je suis un type normal, moi. Je suis un pasteur normal. Le maire de mon village, quand j'étais en charge de la paroisse de mon village, le maire de mon village, il m'invitait aux fêtes en invitant monsieur le pasteur. Ce n'était pas monsieur l'allumé de service. Alors, on était dans cette convention, et puis le gars, il nous enseigne ça. Et puis après, il dit, maintenant, qui est-ce qui a mal quelque part? Alors, il y en a qui se lèvent. Puis après, il va faire un exercice. Les deux, trois qui sont autour, eh bien, vous allez faire ce que je vous ai dit. Voilà. Puis moi, j'étais là. Il y avait une dame qui avait mal à une jambe. Et puis, j'étais terriblement insécure. Parce que tous mes vieux... qu'est-ce qu'il faut dire? Mes vieilles crispations étaient là. Mais Seigneur, et puis si je parle à son bobo là, puis qu'elle n'est pas guérie, j'aurai l'air bête. Alors j'ai rien dit. Puis heureusement, il y en avait un autre avec moi, puis lui, il était beaucoup plus libre. Alors lui, il applique, il s'adresse à la douleur, il dit « Douleur, je te commande au nom de Jésus, fous le camp. » Et la dame, pardon ? Ben, c'était assez direct. Et tout à coup, la dame à côté, elle dit « Ah ! Mais j'ai plus mal !» Alors moi, j'étais la mince, j'ai raté le truc. Ça aurait été bien dans mon CV, un genou guéri. Si je dis ça, c'est pas pour qu'on devienne des gens... hors réalité. Mais c'est parce que si on est un peuple et qu'au milieu de nous, les relations sont solides, sécures, sans jugement, où on se réjouit de l'essai et non pas forcément du succès, comme on l'a vu ce soir, alors on va oser ce genre de choses. Et puis petit à petit, on va voir la puissance se développer. Et puis, petit à petit, les gens vont commencer à savoir que les chrétiens, ce n'est pas juste des gens qui ne fument pas, qui ne se tatouent pas, et puis qui disent non à certaines choses, mais c'est des gens qui répandent le royaume de Dieu autour d'eux parce que c'est des gens qui le voient. Et la puissance peut se développer. Et la grâce peut se développer. On a chanté tout à l'heure « Peuple de Dieu, lève les yeux ». Moi, je vous encourage à lever les yeux, mais à les ouvrir. Parce qu'on peut lever les yeux fermés. Mais Jésus est vraiment en train de dire à ses disciples, « Les gars, vous avez fait tout juste, sauf que vous n'avez pas fait le saut qualitatif. Où est votre foi ?» Dans ma poche ? Non. C'est « Où est votre foi ?» C'est « Que voient vos yeux ? » Qu'allez-vous démontrer de l'invisible ? C'est ça. Et un peuple comme le vôtre, lâché dans une région comme celle de Nîmes, avec encore d'autres églises, et qui, par exemple, je ne sais pas moi, une fois par semaine... Chacun d'entre vous libère sur quelqu'un une grâce qu'il a vue de la part du Père, voyez ? Une fois par semaine dans la région. Et puis vous, vous êtes je ne sais pas combien, puis je ne sais pas combien il y a d'églises, mais allez, au bas mot, il y a 1000 chrétiens à Nîmes. Hein, même un peu plus, 1500. 1500 chrétiens, une fois par semaine. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Père, montre-moi. Quelle personne t'es en train de bénir là, que je le fasse de ta part ? Une fois par semaine, 1500 personnes, ça fait 75 000 personnes bénies par année. La moitié de la population. En 10 ans, ils y passent tous 5 fois. Goûtez le royaume de Dieu. Et tout ce qu'on a dit cette semaine sur la culture de l'honneur, c'est ça et rien d'autre. C'est créer entre nous une relation tellement solide qu'on ose prendre des risques. Et que quand on se ramasse un échec et qu'on rentre à l'église, les gens n'appuient pas sur le bouton échec, mais appuient sur le bouton bien joué. « Come on !» comme ils disent là-bas. « Plus !» On y retourne et on bénit. et on libère la grâce et on fait ce que le Père fait. Ils ont fait tout juste. Mais ils ont fait tout juste, j'ai envie de dire, au niveau 1. Dieu nous appelle à un saut qualitatif. On passe au niveau 2, mais je ne peux pas passer au niveau 2 tout seul. Ça ne marche pas. J'ai besoin d'un corps solide. J'ai besoin d'un lieu de sécurité. J'ai besoin de frères et de sœurs avec qui je peux partager mes réussites comme mes échecs. J'ai besoin, quand je prends le risque en tremblant, de dire à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour vous, dans un commerce, dans la rue, n'importe quoi. J'ai besoin d'entendre dans mon cœur la voix des frères et des sœurs qui dit « vas-y ». Bien sûr, on a envie d'entendre le Seigneur, mais le Seigneur, il s'est incarné et nous sommes son corps. Go, go, go. Il faut que le corps s'aligne sur la tête. J'aime ce que tu dis, ça c'est génial. Il faut que je note là, celle-là, elle est bien. Il faut que le corps s'aligne sur la tête. Je pense que nous, dans notre Europe occidentale, et peut-être vous en France, un peu plus que les autres, vous êtes cartésiens, vous êtes de la tête. Mais il faut que le corps, c'est-à-dire nos relations à nous, le corps de Jésus, s'aligne sur notre compréhension des choses et que nous devenions ce corps constitué, aimant et sécurisé. La tête, c'est bien sûr le Seigneur, mais on entend beaucoup de choses dans la tête. On sait tellement de choses. Mais je vous promets, quand on commence à mettre en pratique ce qu'on voit le Père faire, waouh, ça fait du bien. C'est super. On se réjouit. Puis on a envie de recommencer. Voilà ce que j'avais envie, ce que nous avions envie avec Monique de partager avec vous ce matin pour vraiment vous encourager puis vous dire, vous êtes ce corps. Et c'est magnifique de pouvoir le vivre de plus en plus. Merci de nous avoir invités. On a été vraiment heureux de passer cette semaine avec vous. Ça a été une grâce. Amen.